c'est dur en fait quand t'es jeune de te projeter dans la vieillesse. Ouais. Genre autant, enfin, c'est facile. Tu sais, il y a beaucoup le truc, on discute beaucoup dans la psychologie moderne du fait de se reconnecter à son inner child.
Oui. Ouais.
Et genre il y a pas longtemps, j'avais entendu une meuf qui disait que elle se projetait, genre elle pensait beaucoup plus maintenant à sa elle plus vieille que à genre son inner child,
sa older
version, genre sa elle de 80 ans, ouais. Et que genre pour elle c'était important d'essayer de se connecter à sa future elle, tu vois, pour essayer de faire tout ce que la personne de 80 ans aurait voulu qu'elle fasse. Genre ouais, en okay. mode
mais du coup ça rajoute un ouais. peu une charge, je trouve. Enfin moi je me le dis souvent, ouais. je me dis bah en fait au moment où j'aurai un peu fini ma vie entre guillemets, c'est horrible mais c'est ça, bah qu'est-ce que j'ai envie de retenir et qu'est-ce que j'ai envie, enfin quel était mon fil de conduite un peu et le ouais mon objectif c'était quoi à cet âge-là, et je me dis bah en fait la moi de 80 ans serait trop contente que je fasse ça, ou alors elle serait un peu en mode bon là j'aurais pu faire autre chose, et du coup ouais mais du coup ouais. ça rajoute une pression,
ça
aussi
rajoute une pression. Je trouve que c'est un peu paralysant de dire qu'il faut absolument que tout ce que tu fais maintenant soit en adéquation avec ce que tu seras plus tard. Ouais. Genre moi c'est un truc, enfin, genre par rapport au tatouage, ma mère elle est grave en mode mais quand tu seras vieille, quand, enfin il y a aussi le truc de quand ta peau ne sera plus aussi belle et tout, quand tu seras ridée, genre est-ce que tu les aimeras encore, est-ce que genre ce sera toujours en adéquation avec toi. Et juste je suis en mode, je trouve ça trop nul, tu vois, de se restreindre dans des trucs genre immédiats pour genre, enfin en prévision du futur, en mode oui ok bah quand je serai vieille peut-être mes tatouages je les aimerais plus autant, mais genre maintenant, genre, je suis en mode, enfin, ça me fait trop kiffer. Et...
Moi, je pars du principe, par exemple, pour les tatouages, tu vois, que de toute façon, si je le fais maintenant, c'est que j'en ai envie. Au mieux, ce sera un souvenir de la moi d'avant, et genre, c'est une marque du temps, comme plein d'autres choses peuvent marquer ton corps. Et les rides, c'est aussi une marque du temps. Ouais. Là, on va dire que c'est un truc que tu choisis, en fait. Oui. Donc, c'est différent. Il y a une forme d'autodétermination qui est peut-être même encore plus forte. C'est un peu une manière de reprendre le contrôle ou le pouvoir sur son corps. Et...
Ouais, moi, les tatouages, ça m'aggrave. Enfin, j'ai l'impression que ça m'aide un peu à mieux appréhender la vieillesse et le fait de dire qu'il y aura un peu une permanence aussi de la moi de 23 ans. Et ouais. de dire que certes, ils seront plus aussi beaux et lisses et tout qu'ils sont maintenant, mais que bah en fait, c'est beau aussi, tu vois, de voir un corps qui a vieilli et qui porte les traces du passé, de la vie.
C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai eu conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime bien travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière et... Je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Le vrai amour a toujours la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole.
Vous écoutez Radio Piom et aujourd'hui, on va parler du fait de vieillir avec Anna.
Bonjour.
Manon.
Bonjour.
Et moi-même, Marianne.
Bah, tu vieillis, mais il y a des choses qui restent et c'est tout le truc de la vie, c'est d'essayer de se dire bah, qu'est-ce que je vais laisser, quoi.
Et c'est pas en te flagellant au présent, justement, et en t'empêchant de faire des trucs que t'as envie de faire, que tu t'assures forcément une bonne vieillesse. Genre, probablement que si tu fais pas tes tatouages maintenant, tu vas regretter quand tu seras vieille. Tu te seras dit, bah, j'aurais trop aimé le faire, mais je me suis pas autorisée à le faire parce que j'avais pas assez confiance en moi, parce que j'ai écouté ce que les autres m'ont dit, etc.
Mais c'est vrai qu'en même temps, on y pense beaucoup à la vieillesse et ça pèse sur tout ce qu'on fait et tout, on culpabilise. Mais en même temps, c'est hyper dur de s'imaginer, comme on disait, vieux, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, j'ai pas du tout une image de moi plus tard, ou etc. Et en même temps, j'ai cette pression de me dire, attention, si je fais ça, bah, plus tard, je vais regretter. Mais en vrai de vrai, plus tard, j'en sais rien. Si je regretterai, j'en sais rien. Enfin, je sais pas comment je serai plus tard et...
Oui, en fait,
enfin, on vit pour la personne qu'on sera dans 50 ans alors que...
C'est ça.
On est déjà quelqu'un, quoi.
Mais j'ai l'impression que aussi, tu vois, du coup, on se projette beaucoup dans le potentiel nous plus vieux, quoi. Je pense qu'on essaie aussi de faire des choses et de pas faire, enfin on évite de faire certaines choses par peur justement de vieillir de la mauvaise manière. Donc ça nous ramène à la définition de vieillir. Ça permet de faire un petit glissement, mais genre vu que littéralement ça vient de vetulus en latin qui veut dire usure, genre c'est quand même intéressant, tu vois, de se dire on se projette souvent dans notre futur nous, on se dit je veux pas faire un truc que je vais regretter plus tard, dans le sens où peut-être que t'as pas envie de faire un truc qui va te conduire à une déchéance ou genre à une sorte de dégradation, de quitter, etc. sur le long terme, enfin vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Du coup, genre je pense qu'il y a vraiment à la fois on se projette dans le futur, mais je pense qu'on a du mal à s'imaginer vieux parce qu'on s'imagine, enfin on s'imagine avec plus de maturité, mais pas vieux dans le sens péjoratif du terme. Enfin, je sais pas vous comment vous percevez la chose, mais
ouais, c'est vrai. On pense les personnes qui vieillissent comme plus usées et où le temps a laissé vraiment des marques négatives et c'est un peu péjoratif. Et quand on s'imagine soi vieux, c'est pas forcément quelque chose de négatif.
On essaie d'éviter, en tout cas. Enfin, oui. Je pense qu'il y a aussi un truc de la volonté d'éviter justement, d'essayer d'échapper à ce truc.
Nous, on sera pas vieux comme ça et nous, ouais, on sera vieux juste avec de l'expérience et de la maturité. Et on sera un peu mieux que maintenant parce que on saura plus de choses. Et après, quand on fait un peu un truc rétrospectif, c'est vrai que on se dit je suis mieux et je me connais mieux qu'il y a 5 ans, par exemple. Ouais. Du coup, on a un peu ce truc de logique de dire quand j'aurai 80 ans, ça sera incroyable, je saurai plein de choses. Mm-hmm. Alors que quand on voit d'autres personnes, on se dit, on se dit pas forcément ça, quoi.
C'est paradoxal, mais de toute façon, c'est toute la tension qu'il y a dans la vieillesse aussi. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs conceptions de la vieillesse et du vieux ou de la vieille, quoi. En fait, t'as deux grosses figures schématiques. T'as genre le sage et le sénile, quoi. J'ai l'impression qu'on essaie de s'extraire un peu des deux, qu'on a envie de tendre vers le sage.
La tension qui est là, c'est vraiment la tension du rapport entre le corps et l'esprit. Genre, le sage, on va pas vraiment penser à son corps, mais c'est juste genre un esprit qui s'élève, alors que le sénile, en fait, il est enfermé dans son corps et juste, il est genre appesanti par son corps qui a vieilli littéralement.
Ouais, et du coup qui influe, en fait qui agit sur son esprit,
oui, voilà,
ouais. Et qui le conduit à la démence inéluctablement, c'est un truc contre lequel tu peux pas lutter, quoi. Est-ce qu'on peut grandir sans vieillir, entre guillemets, ou est-ce qu'on peut avoir l'impression de s'élever et de gagner en maturité sans pour autant ressentir les effets du temps? Et je pense que le paradoxe dans le fait de vieillir, c'est qu'on a conscience du fait qu'on va vieillir et qu'on sait qu'on vieillit, mais on le ressent pas au moment où ça arrive. C'est-à-dire que c'est tellement sur le long terme. Je pense qu'il y a souvent un truc de déclic où d'un coup tu vas avoir ta première ride, mais c'est pas un truc que tu ressens en mode ah là je sens mes cellules qui sont en train de te vieillir, quoi. Ouais.
Par contre, on sent quand une fois que je pense, mais on dit ça parce qu'on est jeune, mais on sent une fois qu'on est vieux. Et je pense qu'il y a un basculement, il y a un moment où vraiment on conscientise le fait que là ça y est, j'ai vieilli. Par contre, on sent pas le processus par lequel on vieillit vraiment, mais on sent une fois qu'on est vieux qu'il y a vraiment une différence avec le fait d'être jeune.
Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des rites de passage, enfin typiquement le passage à la retraite, qui est aussi très calqué sur un modèle capitaliste, du coup, penser la vie et l'évolution, le fait de grandir au prisme du travail. Mais il y a ça, enfin pour les femmes aussi, on peut parler de la ménopause, qui sont vraiment deux événements marquants qui montrent, enfin qui genre entérinent un peu le début de la vieillesse et le début d'un déclin, souvent, enfin on veut le penser comme ça. Et en vrai, je pense qu'on peut grave le remettre en question. Et je trouve que ça pose aussi la question du bonheur. Il y a grave des discours en disant que à l'inverse, genre la jeunesse, c'est un peu les meilleurs moments de la vie. Enfin, il y a ce discours là et que du coup à l'inverse, la vieillesse serait un peu genre vraiment ce temps de la décrépitude et de la solitude, du malheur. Et en vrai, c'est pas du tout le cas. Et je pense que la question genre des liens entre bonheur et vieillesse est vraiment à interroger et à peut-être revaloriser, justement.
C'est parce que je pense qu'il y a aussi juste une conception collective qu'on a construite. Je sais pas trop pourquoi ou comment. Je pense que c'est quand même vachement lié au fonctionnement capitaliste d'une société où, genre, juste à partir du moment où on est plus vieux, justement, vu que notre corps est un peu moins habile, et on est moins à même de faire des choses, de produire des choses, et du coup c'est perçu comme une décrépitude, et du coup on a une conception un peu de la vie en montagne, quoi, comme si d'abord il y avait la pente montante et ensuite la pente descendante. Et je pense que c'est un truc qu'on peut complètement interroger et qui serait super qui est super intéressant en tout cas d'interroger, parce que j'ai l'impression que, enfin, en tout cas il y a des études qui montrent que le bonheur, que les gens sont plus heureux quand ils sont à la retraite que quand ils sont dans leur vie active, quoi.
Oui.
Et donc ça pose aussi question, est-ce que vraiment la vieillesse c'est une source de malheur, ou est-ce que justement, ça peut pas aussi être une source d'épanouissement, de où les choses, où la vie se ralentit, mais pour le mieux. Enfin, je sais que j'avais vu aussi, je crois, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais j'ai entendu que, en fait, tes cellules, mais c'est littéralement ça, la vieillesse, en fait, tes cellules se reproduisent moins vite. Ouais. Et du coup, aussi, quand tu vieillis, tu t'es plus lent dans ta manière de fonctionner, etc. Et t'es aussi plus tendre. Apparemment, dans les relations de couple et tout, chez les personnes âgées, et bah, ils sont plus gentils les uns avec les autres, il y a plus de tendresse, etc. Je trouve ça trop intéressant aussi de voir ce point-là de la vieillesse. Ça va un peu à l'encontre de l'idée de la décrépitude. Parce que c'est pas nécessairement négatif, en fait.
C'est vraiment un construit social et quelque chose qui est aussi hyper centré sur des sociétés occidentales. Enfin, c'est Anne-Marie Pitry, qui est une anthropologue, qui travaille sur, sur le Kenya, notamment, enfin, genre plusieurs pays et communautés en Afrique de l'Est, et qui montre qu'en fait, en Afrique de l'Est, du coup, genre, vieillir, ça n'a pas du tout la même signification qu'en Occident. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment la question du travail et que genre les figures âgées sont beaucoup plus valorisées et sont beaucoup moins mises à l'écart comme genre ça peut l'être chez nous en mode quand t'es trop vieux tu vas à l'EHPAD et du coup genre t'es vraiment mis sur le côté, t'es invisibilisé aussi dans l'espace public et que voilà du coup vieillir et être vieux vieille ça a pas du tout la même ça il y a pas de signification unique et universelle absolue et que ça vraiment on peut y mettre ce qu'on veut et ça change.
Puis surtout, c'est vrai que nous, on a vraiment cette image de je suis dans la vie active et quand je suis à la retraite, je ne suis plus dans la vie active. Donc littéralement, je ne suis pas active, je ne fais rien. Mais en même temps, on a ce truc de se dire j'ai hâte d'être à la retraite. Enfin, très souvent, on fête l'arrivée à la retraite et on se dit que ça y est, c'est un autre moment et c'est un peu l'achèvement de tout ce qu'on a fait. On a travaillé et maintenant, on est à la retraite, on se repose. Enfin, c'est vraiment ce moment
de plénitude. Enfin, c'est censé aussi être un moment d'apaisement,
c'est ça.
D'accalmie, etc.
C'est un peu une récompense, en fait. Enfin, j'ai l'impression que la retraite, elle est vécue comme une récompense à la fin. On n'a pas envie que ça retarde trop la retraite, littéralement, mais voilà. Et en même temps, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais sur les autres cultures. C'est vrai qu'il y a un peu cette image. Enfin, je pense aussi au niveau de l'Asie et tout ça, il y a beaucoup cette image du vieillard sage qui nous apprend des choses. Et je crois qu'il y avait un dicton aussi qui disait que un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Ouais.
Et en fait, c'est toute la sagesse qui va avec. Et en fait, on perd quelque chose. Alors que dans notre communauté, en Occident,
c'est pas trop ça. Je pense qu'il y a individuellement, il y a des gens qui perçoivent ça comme ça. Mais c'est vrai que collectivement, c'est pas la première conception qu'on a de la vieillesse. Et du coup, c'est pour ça que ça peut nous interroger au final. Qu'est-ce qui fait peur dans la vieillesse? Qu'est-ce qui change en nous aussi quand on vieillit véritablement? Est-ce que la vieillir, ça nous change? Est-ce que c'est le temps qui nous change? Ou est-ce que c'est juste le fait de se changer corporellement, est-ce que ça affecte notre identité? Ou est-ce que finalement, ça va être d'autres choses qui vont changer en nous? À l'inverse aussi, je pense que ça peut être intéressant de se demander si on peut vieillir quand on est jeune. C'est bizarre dit comme ça, mais ça arrive des fois qu'on dise que, par exemple, des enfants sont très matures pour leur âge. Et on peut sentir parfois qu'il y a certains enfants qui sont vieux. Enfin, on a l'impression que c'est un peu des vieilles âmes, c'est bizarre dit comme ça. Mais parce que souvent, c'est des enfants qui ont vécu des choses pas faciles. Enfin, on peut se demander si le trauma, fait vieillir. Si, la vieillesse, c'est pas... Comme tu dis, la jeunesse est dans la tête, la vieillesse aussi peut-être.
Oui, il y a toujours un référent, en fait.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on a tendance aussi, à l'inverse, à décrédibiliser la jeunesse, à décrédibiliser, à penser que... les enfants, les adolescents sont pas assez matures et que plus on avance dans la vie, plus on est mature, plus on est vieux, etc. Mais c'est quelque chose de très relatif aussi à l'expérience vécue de chacun. Et donc ça peut être super intéressant aussi de se demander c'est quoi les modalités phénoménologiques du vieillir, quoi.
Et puis il y a aussi une question qui me vient quand tu dis ça, parce que on parle beaucoup du fait de vieillir soi, de se voir vieillir, etc. Mais je pense que voir aussi les personnes autour de nous vieillir, c'est aussi une expérience qui affecte en fait notre personne. Je sais que quand on voit nos parents quand on est jeune et quand on les voit vieillir, ça fait aussi quelque chose et ça dit aussi quelque chose de soi. Puis même de voir ses amis changer, la vieillesse, elle est un peu partout et c'est pas qu'une expérience de soi, je pense.
Mais je crois que il me semble que c'est Simone de Beauvoir qui dit que on prend conscience du fait qu'on vieillit en regardant les autres.
C'est ça. Parce qu'on existe dans le regard de l'autre. Et quand on voit que le regard il change et quand on voit que le corps il est pas le même et en même temps l'intériorité aussi. Ça dit autre chose de notre rapport au temps et ça nous rend aussi très. Ça montre à quel point le temps passe et à quel point nous aussi en fait on change, parce que quand l'autre change ça veut dire que nous aussi on a vieilli.
Oui. Mais c'est vrai que moi quand je vois mes parents genre vieillir et se rapprocher de ce qui est dans l'imaginaire collectif des grands-parents, parce qu'ils commencent à avoir des petits-enfants, etc. Genre, du coup, moi, je me pose aussi comme... genre un peu, enfin, de plus en plus dans une relation d'égal à égal, et comment je vois, genre, que la façon dont mes parents interagissent avec mes grands-parents. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre, juste, bah, du coup, je sens que, genre, moi aussi, je grandis, mais genre, vraiment, en voyant mes parents, genre, devenir, en fait, acquérir un autre rôle social. Du coup, genre, enfin, voilà.
Ça nous met à une autre place parce qu'en fait, on n'est plus l'enfant d'un parent. Oui, on se rend compte que le parent, il devient grand-parent. Et du coup, on se dit, du coup, moi, je suis qui? Je suis pas parent, mais en même temps, mes parents, c'est plus des parents. Donc, donc en fait, on se place autrement et on s'adapte à tout ça. Et c'est vrai que du coup, voir certaines personnes vieillir, ça...
Ça nous pousse à assumer aussi d'autres rôles sociaux.
Oui, c'est ça.
Voit quand même que socialement, en tout cas dans nos sociétés occidentales, et pour le cas de la France, c'est particulièrement parlant, quoi, le fait que la vieillesse est perçue comme un déclin, est perçue comme quelque chose de négatif et quelque chose de redouté, à la fois à travers les codes esthétiques, les normes esthétiques qui sont des normes très juvéniles, en fait, le fait de ne pas avoir de poils pour les femmes, d'avoir un visage très très lisse, toute la trend de la glass skin, là, enfin, tu sais, la Korean skincare et tout, machin, pour moi, c'est que des trucs qui renforcent le fait qui nous pousse en fait à vouloir rester jeune, etc. Et en plus, il y a aussi c'est les EHPAD, l'existence même des EHPAD nous montre qu'on a envie de cacher un peu la vieillesse et de la mettre dans un coin. Et voilà, quoi. Donc c'est assez bizarre, enfin c'est particulier de voir que la vieillesse est considérée comme ça, parce que du coup, on sait que c'est notre destination, mais ça renforce, ça crée une peur et ça la renforce. Et je pense que ça renforce aussi, par extension, la peur de la mort. Parce que,
C'est ça.
Enfin ouais, on a l'impression qu'il y a cette destination finale qui est pas du tout enviable, quoi. Je dis pas qu'il faut qu'on envie la mort, mais est-ce qu'on pourrait pas envier la vieillesse?
Il faut la détacher de la vieillesse aussi, parce qu'en vrai la mort peut subvenir,
à tout moment.
À tout moment, quoi.
C'est ça.
Et du coup, Simone de Beauvoir, elle en parle beaucoup, du coup dans la vieillesse. Mais en fait, c'est surtout pour les femmes, c'est le regard et c'est le regard masculin qui fait qu'on se sent vieille aussi. Et c'est tout le problème de la femme qui vieillit, en fait, qui devient non désirable. Et je pense que le regard, il pèse sur les corps. Enfin, dans et sur les corps, pour le coup. Et c'est vrai que y a un peu ce truc de... Enfin, c'est très social, c'est très patriarcal aussi, le fait que le corps d'une femme qui vieillit n'est plus désirable, alors que le corps d'un homme, on va pas du tout le voir de la même manière.
Oui, il y a différents âges. Enfin, on dit que les hommes, ils atteignent leur maturité... qui sont le plus beau à l'âge de 50 ans, je crois.
C'est ça.
Et à partir de quand on considère qu'un corps est vieux? En effet, ça dépend du genre de la personne, visiblement, du genre perçu. Et en effet, limite, George Clooney, il n'a jamais été aussi beau que quand il avait ses cheveux gris et ses rides, quoi. Enfin, c'est ce qui était écrit
bien les... et que.
Voilà, plus il vieillit, du bon vin.
Ouais, c'est ça.
Alors que les femmes, à partir du moment où elles sont ménopausées, c'est fini, on n'entend plus parler.
25 ans, DiCaprio, elle n'en veut plus. Donc...
Voilà, c'est ça. Et en fait, à partir de quand un corps féminin est vieux? J'ai l'impression que oui, ça dépend du regard masculin et que limite, à partir du moment, tu vois, moi, la question des poils, pour moi, elle m'importe énormément parce que on force les femmes à retirer leurs poils et genre, c'est devenu normal, en fait, de retirer ses poils. Mais pourquoi? Parce que c'est la marque d'une maturité, c'est la marque d'un corps qui a fait sa puberté. Et en fait, moi, j'ai l'impression que garder mes poils, ça me vieillit, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui volontairement, garde mes poils sous des aisselles et tout. Et je sens que le regard change et que ça... Bon, à la fois, en plus, ça te discrédite socialement d'une autre manière. Mais je sens qu'il y a un rapport avec aussi... Enfin, oui, je me détache un peu des stéréotypes très juvéniles, quoi.
Et tu deviens plus... tu prends en maturité et tu deviens plus quelqu'un de... Enfin, j'ai l'impression qu'on va plus écouter et qu'on va plus... Enfin, en fait, c'est plus ton corps qu'on va regarder avant le reste.
Ouais.
Du coup.
Après, quand t'es une femme, début, c'est un peu qui tout zoupe, parce que ça peut aussi être genre un facteur d'exclusion sociale, de juste t'es plus désirable pour... un certain type de personne et en fonction des sphères dans lesquelles t'es, etc. C'est pour ça d'ailleurs que à l'inverse, on a suivi une conférence avec Anna qui s'appelle le tunnel de l'actrice de plus de 50 ans, c'est ça je crois. Et donc c'était une conférence sur un séminaire sur la manière dont en fait les actrices de plus de 50 ans, donc, à partir du moment où elles ont passé 50 ans, elles ont plus de rôle et tout. Et à la fois, c'est ce qu'elle disait souvent, les actrices qui témoignaient, elles disaient que elles avaient jamais eu autant confiance en elles, et elles avaient jamais été aussi expérimentées, évidemment, du coup, et elles avaient jamais, oui, su aussi bien jouer qu'à ce moment-là. Et pourtant, c'est le moment où on leur propose plus de rôles, ou alors on leur propose des rôles de sorcière ou de grand-mère, et encore.
Oui, parce qu'il n'y a plus de rôles sociaux, à part genre la mère. Et bah encore, quand t'as 50 ans, déjà, du coup, tes enfants sont grands, tu travailles plus forcément, ton rôle d'épouse. Enfin, si, je sais pas, je pense qu'il y a aussi l'idée du fait que tu es moins active sexuellement, et du coup, genre, si on pense genre le couple sur au prisme sexuel, genre, il y a l'idée que oui, bah à 50 ans, genre ton couple il est plus aussi genre désirable et tout, et que enfin voilà, en tant qu'épouse. Qui est un rôle structurant, genre, quand même, pour les femmes dans nos sociétés patriarcales. Oui, voilà, genre, tu n'existes plus, mais genre, sur vraiment un ensemble de niveaux.
Bah, c'est ce qu'elle expliquait, enfin, ce qu'elle expliquait aussi, il me semble, dans les conférences, c'était que, justement, déjà, de base, les rôles donnés aux femmes au cinéma sont assez restreints, et c'est souvent des rôles d'épouse, de mère.
C'est le main gaze.
Voilà, voilà. C'est rarement des. Enfin, il y a des rôles, bien sûr, il y a de plus en plus de rôles où elles sont beaucoup plus actrices de leur destin, elles ont des rôles un peu originaux, machin. Mais il faut quand même qu'elle soit belle généralement, et qu'elle soit qu'elle ait l'air jeune et tout. Et mais en plus voilà, quand elle vieillit, c'est encore pire, parce que en effet socialement, c'est la mort sociale, et du coup c'est la mort à l'écran aussi, quoi.
Il y a un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Masculin Féminin, qui est hyper intéressant sur ça, parce que il a vraiment essayé de déconstruire le fait que la femme elle est pas enfin elle a pas un rôle que l'homme lui donne, et il y a ce fameux, enfin je sais pas si vous connaissez, mais il y a la règle un peu de il faut qu'il y ait deux femmes à la caméra qui parlent d'autre chose que d'un homme.
Et
justement, lui, il ne le fait pas du tout. Et c'est hyper intéressant de voir les rôles qu'elles ont, qui sont en fait hyper normaux, en fait. Et je trouve que le cinéma, il essaye un peu c'est une manière de remontrer le réel et tout ça. Et lui, il le fait beaucoup mieux. Et en fait, les femmes, elles ne sont pas du tout... Enfin, dans la plupart des films, les femmes sont désirables et c'est tout. Et là, il le fait pas du tout, et ça paraît plus réel. Enfin, le film est plus... On peut plus se projeter.
Ouais,
dedans,
carrément.
En fait.
Mais oui, du coup, en fait, finalement, c'est limite, ça serait carrément une opportunité. En plus, enfin, genre, je veux dire, les actrices de plus de 50 ans... bon, là, je suis en train de faire la défense des actrices de plus de 50 ans. Mais justement, je pense que c'est des personnes qui, en plus, voilà, ont une palette encore plus large. Et justement, c'est l'occasion, je pense, quand tu joues ou quand tu mets en scène ces actrices-là, de proposer d'encore plus s'affranchir des rôles traditionnels. Parce que, justement, il y a tellement peu de représentations que... il y a encore plus de place à la créativité, quoi.
Bah, c'est surtout que si on est une femme de plus de 50 ans qui va au cinéma et qu'il n'y a personne qui nous représente, bah, du coup, c'est pour ça qu'on a envie de rester jeune, et que des fois, les femmes de 50 ans ont tendance à aller vers des codes sociaux, vestimentaires, etc., esthétiques, jeunes, en fait. Alors que si elles étaient représentées, elles auraient une place et des choses pour mettre en valeur un corps vieux, quoi.
Tout ce que tu disais avec la mort de la sexualité, enfin aussi le fait que genre la sexualité c'est devenu tabou, enfin ça devient tabou quand tu vieillis, etc. Ça, si Simone de Beauvoir elle en parle dans son livre, et je pense que ça rejoint aussi le fait, on parlait de Leonardo DiCaprio, mais le fait que de toute façon les femmes de 40-50 ans généralement, il y a la fameuse crise de la quarantaine, cinquantaine, et souvent elles se font, enfin pas tout le temps, mais il y a beaucoup d'hommes qui quittent leurs femmes quand elles ont 40 ans, 50 ans, parce qu'elles correspondent plus aux stéréotypes de beauté, etc. Et donc, je trouve ça intéressant aussi de voir qu'en effet, genre, vraiment, c'est la mort sociale. Et je pense que c'est pour ça qu'on le redoute aussi particulièrement en tant que femme.
Et il y a le même phénomène. Beaucoup d'hommes qui quittent leurs femmes quand elles ont, par exemple, des cancers. Genre, j'ai plus les chiffres en tête, mais vraiment... Et à l'inverse, les femmes ont beaucoup plus tendance à rester justement avec leur conjoint, leur mari, quand eux sont malades. Mais oui, quand les femmes commencent à vieillir, à ressentir vraiment dans le corps les effets de la vieillesse et de la maladie. En vrai, il faut éviter d'associer trop les deux, mais on peut quand même les associer dans une certaine mesure. Et oui, juste du coup, quand la santé n'est plus forcément au rendez-vous et quand le corps commence à décliner, les hommes, les femmes sont plus aussi, sont plus rendues aussi désirables.
Ouais. Et du coup, justement, ça montre à quel point, c'est encore une fois, c'est mes déboires féministes, mais genre, à quel point, juste, la plupart du temps, les femmes sont perçues avant tout à travers leur corps et à travers leur capacité à être objectifiées, à être objet de désir. Et y a un vrai truc de, du coup, ces hommes-là, ils quittent leurs femmes probablement pour plein de raisons différentes, mais probablement avant tout parce que déjà, une femme, quand elle ne peut plus être objet de désir et qu'en plus, elle ne peut plus prendre soin du mec qu'elle a en face d'elle, en fait, à quoi elle sert? C'est horrible, dit comme ça, mais c'est souvent pour ça, en fait.
Alors qu'un homme qui vieillit, ça ne va pas du tout être la même chose.
Bah ouais. Mais déjà, parce que, en plus, du coup, je pense que d'autant plus, déjà, de base, les femmes qui vont expérimenter ce genre de truc même si elles se font pas quitter par leur mari, enfin en fait le fait de vieillir c'est tellement, on nous prépare tellement en fait que ça va être tragique, que je pense qu'elles le vivent de manière tragique et elles perdent encore plus en capacité, même des fois je pense inconsciemment ça influence la manière de fonctionner, alors que je pense que les hommes ils ont déjà en tête le fait que oui ils vont vieillir mais c'est pas grave et que c'est des mecs et que du coup bah genre ils peuvent être encore super performants pendant encore 40 ans d'affilée. Ouais, ça me fait penser à Belmondo, ça m'avait choqué. Je me rappelle, je regardais un jour Vivement Dimanche avec mes parents, l'émission de Michel Drucker, je sais pas si vous voyez.
Oui, totalement, avec les canapés rouges.
Ouais, voilà. Et je me rappelle, ils avaient reçu Belmondo, qui avait genre 82 ans et qui était avec une femme de 45 ans et qui avait une gamine de 9 ans. J'étais en mode...
Mais De Niro, il a quel âge? Il a 80 piges, il a eu un gosse il y a genre 2-3 ans.
Voilà. Ouais. En fait, il y a un peu ce mythe chez les hommes qu'ils peuvent avoir une seconde vie.
Oui.
Ils peuvent revivre... Et en fait, du coup,
ils ont le droit.
Et c'est là que tu vois que, en effet, la jeunesse parfois est dans la tête, parce que eux, ils vivent comme s'ils avaient encore 35 ans, quoi. Mmh. Ils refont des enfants, ils continuent à vivre à malgré encore qu'ils vieillissent.
Mais
quoi.
Ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va vraiment penser du coup la vieillesse et le fait de vieillir sur vraiment des caractéristiques physiologiques du fait qu'à partir du moment où tu peux plus trop te reproduire. Bah, c'est fini. Et c'est vraiment ça pour les femmes, parce que quand t'es ménopausée, bah, du coup, tu passes de l'autre côté. Enfin, alors, c'est ce qu'on va dire, quoi. Alors que les hommes, bah, comme on peut le voir, genre, t'arrives à 80 ans et tu peux encore te reproduire et t'es encore valorisée socialement. T'as encore, juste ton corps est pas encore.
En fait, j'ai l'idée qu'à partir du moment où tu peux plus te reproduire, ça y est, tu te rapproches de la mort.
Ouais, encore une fois, c'est ce truc de je sers plus à rien. Enfin, si je ne produis plus, bah, je ne suis plus. Enfin, il y a encore ça, quoi.
Ouais. Et donc il y a l'idée que oui, genre les hommes sont encore performants, alors qu'en vrai ça pose aussi énormément de questions. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait un enfant à 75 ans,
c'est totalement irresponsable.
C'est ultra irresponsable pour l'enfant, c'est ultra...
Et je pense que ça comporte aussi beaucoup de risques de santé pour les enfants.
Bien sûr, mais au-delà de ça, juste même... Ça fait réfléchir. Oui, voilà, c'est ça en fait aussi. Malgré tout, vieillir, c'est quelque chose qui est inéluctable. Et bien sûr que la vieillesse n'est pas toujours associée à la mort, mais... On va tous mourir un moment et on finit toujours par mourir. Donc, je veux dire, faire un enfant à 75 ans, même si tu vis jusqu'à 85, 100 ans, si tu veux, ça reste assez irresponsable parce que un enfant, il a besoin de quelqu'un
qui... Je trouve que ça pose la question du care aussi. Et du fait qu'au bout d'un moment, de manière générale, quand tu vis, tu as toujours besoin d'un relais et de quelqu'un qui va s'occuper de toi. Et la vieillesse, elle est indissociable de aussi juste avoir une communauté, enfin au sens large, après je pense aux EHPAD, du coup c'est plus des communautés dans le sens où les gens juste travaillent et sont obligés entre guillemets de s'occuper des personnes âgées, mais oui, il y a toujours besoin de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Et typiquement si tu fais un enfant à 75 ans, ça implique forcément que d'autres personnes vont pouvoir s'en occuper et qu'il y a une continuité pour le soin.
Oui, c'est ça. Et puis en fait, vu qu'on infantilise beaucoup les personnes âgées, du coup ça fait bizarre de se dire qu'une personne âgée pourrait avoir un enfant. Enfin, si en théorie tu régresses, ça n'a pas de sens que... Enfin, mais en même temps, du coup, c'est aussi une conception de la vieillesse qui est très schématique. Et,
et en même temps, il y a plein de formes de vieillesse différentes et on vieillit pas tous de la même manière. Donc, ça serait très schématique de dire quand je vieillis, je régresse, donc faut qu'on s'occupe de moi. Et il y a des gens qui sont encore très indépendants. Enfin, après, évidemment, il y a tout le truc du corps et des maladies, etc. Mais je pense que vieillir, c'est une expérience qui est commune à tous et en même temps hyper subjective.
Ah, ça dépend vachement des conditions matérielles aussi, de ce que tu as fait toute ta vie. Si tu as travaillé dans un bureau et si tu as travaillé, je prends l'exemple de mon père, genre qui est plombier et qui juste a passé sa vie genre à genoux sous les lavabos. Enfin, il a les jambes flinguées aujourd'hui et du coup, c'est pas du tout la même expérience de la vieillesse. Genre, t'as pas du tout les mêmes capacités quand t'arrives à l'âge où tu vas partir, pouvoir partir en retraite, surtout si Macron continue de rallonger.
Ouais. En vrai, genre, j'ai l'impression que c'est aussi un énorme privilège simplement de vieillir. Et c'est pour ça que, enfin, il y a autant, à mon avis, de manifestations contre la réforme des retraites. C'est que c'est à la fois un privilège et un droit de pouvoir vieillir en paix, de pouvoir justement...
C'est un luxe de vieillir dans de bonnes conditions.
Et de justement essayer de vieillir sans tomber en désuétude, sans se décrépir.
Vous allez écouter Getting Older de Billie Eilish.
older. I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful. There's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, cause the stranger seemed to want me more than anyone before. Too bad they're usually deranged. Last week I realized I crave pity. When I retell a story I make everything sound worse. Can't shake the feeling that I'm just bad at healing. And maybe that's the reason every sentence sounds rehearsed. Which is ironic, because when I wasn't honest, I was still being ignored. Lying for attention, just to get a cushion. Now we're estranged. Things I once enjoyed just keep me employed now.
Getting Older de Billie Eilish.
Même si ton corps te pose des limites petit à petit, je pense que c'est possible de bien vieillir. Et ça me fait penser à ce que je vous racontais hier. Une personne de ma famille, ma grande-tante, Josiane, qui n'écoute pas ses podcasts, mais peut-être que celui-là elle l'écoutera, on ne sait pas, qui, il me semble, a 101 ans et elle nage encore 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est quand même fou. Et elle a encore l'énergie de le faire et elle le fera jusqu'à ce que la vie lui mette un stop, quoi. Mais moi, je trouve ça admirable et ça montre à quel point c'est vraiment une question de moyens. C'est aussi qu'elle a eu la chance de pouvoir nager toutes les semaines depuis qu'elle est... Je sais pas depuis quel âge elle a. Enfin, je pense depuis qu'elle a la vingtaine, honnêtement. Elle s'est jamais vraiment arrêtée. Et donc, en fait, ça fait qu'elle a pu maintenir une forme physique. Et ça, c'est un privilège aussi. Pareil, voilà, elle a une bonne retraite, elle peut se permettre de faire tout ça et c'est super,
quoi. De faire des soins aussi, de se soigner.
Bah oui, c'est ça. Et donc, à la fois, oui, c'est parce qu'elle, elle a pris soin de son corps sur le long terme, et donc elle a un peu préparé le fait de bien vieillir, etc. Elle a un peu évité la décrépitude, machin. En même temps, c'est parce qu'elle en avait la possibilité matérielle, et donc on va dire qu'elle a utilisé son privilège à bon escient. Mais du coup, oui, ça contredit un peu notre conception de la vieillesse, a priori.
Qui n'est pas, pas nécessairement le synonyme de subir le temps. Confrontation violente avec la finitude, notre propre finitude et les limites des capacités du corps humain.
C'est ça. Et en fait, justement, j'en discutais avec ma grand-mère de Josiane, et ma grand-mère, elle me disait que... je lui ai dit, mais comment elle fait? Comment elle se sent? Et elle me dit, elle commence à en avoir un peu marre de la vie.
Je dis, oui.
Ah bon? Et je lui dis, mais pourquoi elle continue du coup à nager? Elle me dit, ce qu'elle dit, c'est que si elle doit partir, autant partir dans les meilleures conditions. Donc, elle va juste continuer à faire. Parce que c'est aussi ce qui donne une régularité, ce qui donne un sens, je pense, à sa vie, c'est cette régularité-là. Et c'est le fait de justement continuer à utiliser son corps, à ressentir qu'elle est vivante, quoi. C'est ça qui donne un sens à son existence. Parce qu'en vrai, à 101 ans, elle a perdu son mari depuis très longtemps. Il y a plein de choses qui ne sont plus les mêmes. Mais...
Et puis je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Hein. Genre, moi, mes grands-parents, ils sont en mode oui, la mort, moi, ça me fait pas plus peur que ça. Genre, je suis satisfaite de ma vie. Là, si ça arrivait, juste, j'ai fait mon temps, quoi.
C'est ça. C'est aussi, dans la vieillesse, c'est aussi le fait d'avoir conscience qu'on a vécu. Et du coup, de se sentir privilégié, de dire j'ai eu la chance de vivre longtemps, j'ai vécu tout ça. Et puis, quand on voit les jeunes, ce qu'ils vivent, etc., on se dit moi, je l'ai vécu aussi. Donc, en fait, chacun son tour, entre guillemets, quoi. C'est qu'on a conscience de ça et on se sent. Enfin, je pense qu'il y a un peu une part de. On se sent riche et libéré de tout ça. Enfin, je sais qu'il y a Cicéron aussi qui en parlait beaucoup du fait que la vieillesse libère. Et du fait que il y a plus tout ce désir, cette ambition qui pèse aussi. Enfin, je sais que quand on est jeune, il y a aussi faut être ambitieux, faut vouloir des choses, et puis c'est très incertain aussi. Alors que quand on est vieux, on est un peu libéré de toutes ces passions, quoi.
C'est ce qu'il dit dans De la vieillesse, du coup.
Exactement.
Ouais. Et il parle du fait que la vieillesse, c'est un parachèvement de la vie, une sorte d'apothéose et tout. On se dessaisit justement de l'apparence et de la fausseté. Et je trouvais ça super intéressant parce que du coup, il y a un vrai truc de, pour le coup, lui, le fait de se détacher, on va dire, de sa beauté esthétique, physique, etc. C'est une libération, comme tu dis. Et c'est une manière vraiment de revenir à une forme de réalité, enfin de vérité, intérieure.
Et d'être plus soi, en fait. Ouais. Et en fait, c'est OK pour tout le monde parce qu'on n'attend plus rien.
Ouais. C'est toute la philosophie des stoïques, en fait.
Oui, c'est ça.
D'accepter le temps présent.
Oui, exactement. Et il n'y a plus ce truc de faut être désirable, faut faire de grandes choses. En fait, tout est déjà fait. Donc c'est le moment de libération où on peut être vraiment soi sans forcément être jugé, parce qu'il y a aussi ce respect des anciens et
cette sagesse.
Cette sagesse.
Une position très dogmatique de se dire je sais tout, j'ai tout vécu. Ouais.
Il a plus d'expérience, donc il est plus légitime d'avoir tel ou tel avis.
Ouais, du coup paradoxalement c'est dogmatique dans le sens où c'est pas non plus vrai parce que malgré tout. T'es vieux, t'as vécu beaucoup de choses, t'as beaucoup d'expérience, mais le monde, il continue d'avancer. Continue de se passer des choses. Et donc, en fait, malgré tout, si tu ne veux pas devenir dogmatique, il faut que tu continues à t'actualiser, à remettre en question tes croyances, à questionner le monde qui t'entoure.
Il y en a plein qui le font.
Il y en a plein qui le font, carrément. Et en même temps, je pense que c'est normal aussi d'avoir une sorte de confiance dans ce qu'on croit, dans ce qu'on pense, et c'est aussi rassurant, et je pense que c'est important. Enfin, c'est nécessaire aussi pour bien vivre ta vieillesse d'avoir quand même un socle de genre je sais comment fonctionne l'existence, et même si le monde continue d'avancer, en vrai je pense que quand t'es vieux, t'as beaucoup plus de recul sur les schémas qui peuvent se répéter, les situations qui se reproduisent, etc., parce que tu les as vécues, je sais pas combien de fois, en fait.
Puis il y a un recul aussi sur ce qui est grave ou moins grave. J'ai l'impression que les personnes âgées, nous, on se fait un sang d'encre pour quelque chose, alors qu'elles vont plus prendre du recul et se dire, non, en fait, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose de plus positif derrière, parce qu'elles l'ont vécu. Elles sont déjà tombées, elles se sont relevées, et elles se rendent compte à quel point tout est moins grave.
Elles sont arrivées jusque-là, déjà. Voilà. Déjà, la section naturelle,
c'est Deleuze qui décrit la vieillesse comme l'âge splendide, rempli par la joie d'y être arrivé. Je trouve qu'il y a vraiment, je trouve que c'est très beau et qu'il y a vraiment une posture un peu de contemplation et de plénitude dans la vieillesse.
De fou.
C'est l'apothéose, c'est le point final. J'avais une citation, c'est de Schopenhauer, justement dans L'Art de vieillir. Rien ne console mieux un vieillard que d'avoir incorporé toute la force de sa jeunesse dans des œuvres qui, elles, ne vieillissent pas. Du coup, c'est un peu l'aboutissement de la vieillesse, c'est ça, c'est que dans notre jeunesse, on a pu faire des choses et dans notre vie, on a pu laisser des traces. Et c'est ça, en fait, qui vieillit pas. Et c'est un peu ça qu'on contemple et dont on est fier. Et c'est pour ça que c'est un apaisement et une plénitude parce que ça y est, c'est fait. Et on a juste à se rappeler de ce qu'on a fait.
Et en même temps, ce qu'on fait dans la vieillesse aussi.
Il y a une définition très passive de la vieillesse.
Ouais, bah après, c'est Schopenhauer.
Et l'idéalisation de la jeunesse comme quelque chose de vraiment genre actif. Et après, c'est vrai, tu vois, que quand t'es jeune, t'as vraiment. T'es une personne à construire, en fait.
Puis il y a plus de possibilités, j'ai l'impression.
Souvent, les œuvres de grands génies qui sont inachevées parce qu'ils sont morts avant, c'est parfois. Plusieurs fois, on a tendance à dire que c'est la meilleure œuvre qu'il a jamais écrite, il a pas pu la finir. Voilà, ou genre même la dernière œuvre. Enfin, souvent, en fait, on valorise les œuvres aussi de fin
posthume
de vie.
Posthume et tout
posthume,
ça.
Posthume, parce qu'il y a une sorte de sagesse dans ce qui est écrit à la fin, quoi.
Et du coup, ça discrédite complètement les jeunes, parce qu'il y a une sagesse qui est impossible. Enfin, une sagesse un peu impossible à 20 ans. On se dit, t'as 20 ans, t'as rien vu, tu peux pas être sage.
Moi, c'est toujours un truc qu'on m'a répété, mais même pas une question de sagesse, mais juste de tu comprendras plus tard, tu peux pas comprendre, t'as pas vécu. Alors que je pense que ça, c'est pas vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je m'interrogeais sur est-ce qu'on peut se sentir vieux quand on est jeune. Je pense que oui. Et je pense qu'il y a des trucs, en fait, tu les vis tellement dans ta chair tôt que tu peux avoir des déclics, comprendre des choses par rapport à l'existence de manière très brute et limite des fois. Enfin, je pense que les enfants, et c'est un peu notre discussion qu'on avait eue sur attendre, je crois. Je sais plus, c'était dans cet épisode là où genre on avait parlé pas mal des enfants et le fait que les enfants ils ont un regard sur l'existence aussi des fois qui est presque plus empreint de sagesse que celui des adultes parce que les adultes ont rajouté des couches et des couches.
Mais en tout cas, la vérité sort de la bouche des enfants,
c'est ça. Et du coup, oui, il y a une forme de sagesse dans la vieillesse. Mais des fois, et j'ai l'impression que aussi, ça me fait penser encore une fois au truc de l'inner child, mais genre dans la psychologie moderne, il y a beaucoup ce truc de se reconnecter à son enfant intérieur, revenir à ce que son enfant voulait, désirait profondément et qu'on nous a appris à mettre de côté. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça la sagesse au final. Oui. Généralement, c'est te reconnecter avec ce que tu voulais profondément depuis le début de ta vie presque. Tu vois.
Puis dans la jeunesse, c'est aussi de voir les choses différemment. Enfin, on perçoit le monde de manière plus brute et plus directe. Et du coup, on a moins de préjugés et on appréhende la vie d'une manière qui est plus pure, en fait. Qui est moins... je sais pas comment vraiment dire, mais... Ouais, il y a moins de préjugés.
Qui est original, qui
oui, c'est ça.
Brut.
Enfin, ouais. Oui.
T'as pas tous les filtres sociaux que tu vas mettre par la suite, en fait.
Qui est moins influencé par la vie et par les autres.
Mais par rapport à tous ces âges de la vie qu'on peut diviser, notamment la jeunesse et tout, et des âges qui sont souvent genre très cloisonnés, il y a une philosophe qui s'appelle Suzanne Neyman qui a écrit un livre qui s'appelle Grandir et qui dit qu'en fait... vieillir, devenir adulte, c'est trouver justement cet équilibre entre l'enfance, où du coup tu vas être dans un vécu immédiat du monde, que tu vas prendre le monde tel qu'il est, et l'adolescence, où tu vas avoir une méfiance systématique envers le monde. Justement, quand tu vieillis, il faut essayer de trouver le juste milieu entre appréhender le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être, et du coup essayer de réduire l'écart entre les deux, et du coup d'avoir un regard genre neuf, mais en même temps pouvoir agir sur le monde, vraiment trouver ce juste milieu entre les deux.
Avoir l'impression que t'as encore une agentivité, que t'as encore un pouvoir d'agir. Et en même temps, grâce à toute l'expérience que t'as accumulée aussi, tu peux agir sur le monde d'une manière différente. Enfin, qui est peut-être plus raisonnée et plus apaisée et sage que quand t'as 14 ans, 15 ans et que tu découvres certains trucs et que t'es révoltée et que t'as envie de changer le monde, t'as envie de tout changer.
Mais je trouve que c'est sain aussi de vouloir garder en un sens... tous ces idéaux et de pas les qualifier justement de quelque chose de vraiment propre à la jeunesse et qui soit totalement déraisonnable. Enfin, c'est encore cette philosophe Suzanne Neyman, elle a une lecture très kantienne de la vieillesse et c'est Kant qui dit que les gouvernants politiques préfèrent des adultes qui sont infantilisés parce que c'est plus facile à gouverner et que c'est facile de dire tu veux abolir le capitalisme, tu veux abolir le patriarcat, ouais, mais c'est des trucs de jeunes, tu verras quand tu seras plus âgé, quand tu seras plus vieux, genre tu penseras plus comme ça, genre. Enfin, rendre enfantin et puéril, c'est tous ces idéaux en fait de vouloir changer le monde, c'est vraiment quelque chose de très politique. Enfin, c'est une vraie stratégie politique.
Et c'est un encouragement à la passivité du coup.
Oui, de fou.
Complètement.
À se résigner à ce qui arrivera quand on sera plus âgé, à une vie qui est moins qui serait peut-être moins intéressante et moins bonne que celle qu'on pourrait vraiment avoir.
Et au final, c'est complètement lié avec la conception qu'on a de la vieillesse, qui est la conception passive. de dans tous les cas, en vrai, genre, t'as beau vouloir tout changer quand t'es jeune, dans tous les cas, tu finiras par être passif et vieux. Ouais. Et en gros, c'est ça. Et j'ai l'impression, tu vois, en parlant là, je me demande si, au final, la retraite, c'est pas aussi juste le lot de consolation pour faire passer la pilule. Ce truc de, oui, bah voilà, tu vas devoir abandonner tes idéaux et travailler, dans tous les cas. Et genre, de vendre ta force de travail pendant 30 ans de ta vie.
Plus.
Mais voilà, plus maintenant, du coup, beaucoup plus. Même 40 ans. Et mais vu que tu seras à la retraite après, c'est ok. Limite, genre, on vend cette passivité-là comme ce qu'on disait, comme le but à atteindre, l'apaisement, etc. Et c'est ce qui permet... Enfin, du coup, en fait, c'est bizarre, mais au final, à la fin, les gens, ils finissent peut-être par rechercher que de la passivité parce qu'ils sont actifs dans la vie active, mais pas comme ils auraient peut-être aimé l'être quand ils étaient jeunes, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est rare que pendant ta vie active, ça arrive, hein, bien sûr, de faire un travail qui t'épanouit entièrement et... Voilà, mais c'est rare quand même de t'accomplir complètement à travers ce que
je
tu fais.
Que c'est encore une fois une question de conditions matérielles.
Ouais.
Et
du coup, à travers cette activité-là, t'as l'impression que t'agis vraiment sur le monde.
Oui, c'est
parce
ça.
Que je pense qu'en plus, il y a de plus en plus de bullshit jobs, etc. Mmh. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui font un truc toute leur vie sans trop savoir pourquoi ils le font et qui n'ont pas l'impression que ça a vraiment du sens. Et le sens, ils le trouvent ailleurs. J'imagine dans leur famille, dans d'autres trucs. Ou des fois, ils le trouvent aussi juste dans l'issue qui est que, bah, après, quand ils auront 65 ans, ils pourront profiter et
puis
partir
toujours ce
en
truc,
voyage.
Ouais.
Et...
Ah, je ferai ça quand je serai à la retraite, voilà. Je prendrai du temps pour faire ci, pour faire là. Puis on voit aussi à la fac, il y a plein de personnes âgées qui viennent et qui réapprennent des choses.
Oui.
Et... Enfin, oui, donc il y a aussi encore une activité, il y a encore une recherche de sens qui est possible. Quoi.
Et ça, pour le coup, c'est important, la recherche de sens.
Oui.
Mais justement, je pense qu'on ne te vend pas trop la retraite comme un truc de recherche de sens.
Mais de plus en plus, j'ai l'impression. Enfin,
ouais.
Je sais pas, c'est parce qu'on vieillit aussi et que du coup on en parle autour de nous, mais
bah, je pense que c'est aussi le fait que maintenant on vieillit plus, enfin on meurt plus âgé et on a un ensemble de, enfin la médecine progresse, etc. Et on peut être soigné de certaines maladies. Il y a plein de choses qui nous permettent de mieux vivre notre vieillesse, enfin mieux vivre le moment qu'on est en retraite et plus profiter de notre corps, de la vie, etc.
Je crois que c'est aussi Simone de Beauvoir qui insiste sur le fait justement la nécessité d'apprendre et de continuer à apprendre dans la vieillesse, etc. pour, on va dire, garder, enfin, renouveler en fait qui on est et tout. Ça me fait penser aussi à Ricoeur et à Dans son mène comme un autre, genre la différence entre la mêmeté et l'ipséité. Et donc en gros, pour lui, la mêmeté, c'est le fait de rester identique à soi, mais d'une manière très... physique et genre matériel, de rester en fait qui on est. En gros, pour lui, la mêmeté, c'est un truc qui est un peu garanti. Dans tous les cas, tu vas avoir le même corps dans 50 ans. C'est vrai, c'est factuel. Et en même temps, c'est bizarrement pas entièrement vrai, puisque ton corps, il change, etc. Et du coup, de l'autre côté, t'as l'ipséité, qui est le fait d'être identique à soi, mais plus... c'est l'identité personnelle, et donc c'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ton moi intérieur. Et justement, lui, il parle du fait que l'ipséité, elle se renouvelle en permanence, qu'il y a une reconfiguration de soi perpétuelle, et que du coup, il y a un peu... Ça rejoint ce que tu disais au début, l'idée du dualisme, etc. Il y a un peu deux entités qui avancent conjointement et en même temps qui, des fois, se séparent, quoi. Donc c'est intéressant aussi de se demander à quel point vraiment le corps influence notre perception de nous-mêmes et notre identité.
Quand on pense à Alzheimer, par exemple, évidemment, le corps influe, quoi. Je veux dire, les dysfonctionnements du cerveau, etc., vont faire que on
c'est
plus la même
dualisme.
Personne.
C'est
oui,
que
c'est
en fait on voit bien que le corps influence sur le moi intérieur. Enfin, le cerveau en fait c'est quelque chose de matériel, le corporel. C'est une machine aussi. Enfin, une machine.
Mais si elle dysfonctionne, on peut pas prétendre être le même alors que il y a quelque chose qui est matériellement différent. Enfin, c'est physique quoi.
Ouais. En même temps, justement, c'est très psychologique. Mais la psychologie, vu qu'elle est physique, bon, voilà. Mais c'est sûr que. Tout ce qui est Alzheimer, justement, c'est ça qui est perturbant, c'est qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui a le même corps, qui a la même manière de se présenter en soi, mais qui, au fond, est plus le même. Et donc, c'est sûr que là, c'est un peu les limites de la vieillesse, quoi, ce qu'on disait. Ça rapproche, c'est pour ça aussi qu'on voit ça comme une déchéance, c'est parce que ça rapproche de la mort, d'une certaine manière, d'oublier qui t'es, etc. En même temps, enfin, je sais pas, est-ce que c'est pas une forme de renaissance aussi, c'est bizarre dit comme ça, mais...
On recommence tout et on redevient quelqu'un d'autre et on a une naïveté de...
C'est un peu une reconfiguration de soi mais à l'extrême,
ouais,
quoi.
Oui, c'est un peu remise à zéro et puis on redécouvre le monde et on revoit... Enfin, même quand on a... Enfin, quand je vois les personnes qui sont Alzheimer et qui reconnaissent pas leurs enfants, bah, en fait, ils repartent un peu à zéro et ils les voient comme si c'était des personnes normales. Avec... Il y a plus tout l'affect, les souvenirs, l'expérience avec ces personnes et ça redevient naïf. Enfin...
Et ce qui est difficile, c'est pour les proches.
Bah oui.
Mais pour la personne en elle-même, je pense qu'au début, c'est difficile, l'Alzheimer, il me semble, parce qu'au début, t'es vraiment dans un truc d'entre deux où t'es à moitié perdu, à moitié là, à moitié... Mais au moment où la maladie, elle est vraiment là et que, de toute façon, t'as tout oublié...
Mais oui, si on prend l'identité plus comme quelque chose de... qui est construit collectivement, enfin, c'est... Il y a beaucoup de philosophes qui la considèrent comme ça, enfin, notamment Hegel, qui pense la conscience de soi dans la reconnaissance mutuelle. Je pense à la mémoire collective, par exemple, ça me fait penser aux vétérans de la guerre, enfin, aux rescapés de la Shoah et tout... Et des personnes qui sont très vieilles aujourd'hui, qui meurent progressivement. Et en fait, je me demande que devient la mémoire et l'identité personnelle quand t'as plus tes pères pour te regarder et te retrouver à travers leurs yeux.
Oui, non, mais complètement. C'est parce qu'en fait, notre identité personnelle, c'est aussi une identité collective.
Oui, totalement.
Enfin, y a aussi, et c'est ça aussi, la vieillesse pose aussi ces questions-là, de voir en fait, les personnes qui t'entourent, ton entourage disparaître petit à petit. Et donc, en fait, qu'est-ce qui reste de toi ?
Ça nous ramène à nous et on se dit, ah bah, eux, ils ont laissé ça, eux, ils ont fait ça, et puis maintenant, ils ne sont plus là. Et on en retient quelque chose et on a envie, à notre tour, de laisser quelque chose. Et...
Oui, et en même temps, du coup, voilà, juste, ça pose la question de quand tu es vieux, est-ce que tu es encore toi quand tu n'as plus les personnes ?
Il n'y a plus d'interconnaissance, il n'y a plus les autres gens pour te regarder et se souvenir de toi, comment tu étais avant. Enfin, moi, je pense
du coup, ça passe par le récit.
Oui, c'est ça,
ça passe par un récit de soi, ouais.
Et le récit que tu partages avec les autres, les souvenirs que tu vas partager, que tu vas re-réciter.
Refaire vivre et
oui,
tout.
C'est ça.
Et du coup, est-ce que tu vis nécessairement à travers le passé quand t'es vieux ? Et ça, c'est aussi une vraie question, parce que du coup, c'est un peu comme l'histoire de l'Alzheimer. Enfin, si toutes les personnes autour de toi qui constituaient, qui faisaient partie intégrante de ton identité, disparaissent, est-ce que tu peux pas aussi te reconfigurer et du coup, te recréer un entourage, même si t'es vieux, en fait ? Je pense que aussi, on a la vision du coup de... Nécessairement, si les gens de ta génération disparaissent, toi aussi, ou genre ta vie n'a plus trop de sens, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi un truc dont on parle pas assez ou qu'on n'a pas assez normalisé dans nos sociétés, c'est l'intergénérationnalité. Je pense qu'il y a très peu d'amitié intergénérationnelle, de liens à part dans nos familles, en fait, parce que voilà, on a nos grands-parents, etc. Mais.
C'est un peu jugé. Enfin,
oui, l'idée qu'on ne pourra pas se comprendre parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, c'est évident qu'il y aura des choses qui seront différentes, mais c'est peut-être ça aussi l'intérêt parfois.
Les personnes de 30 ans qui ont un ami de 70 ans, on les juge un peu. Enfin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien.
On a l'impression qu'ils sont dépassés.
Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un transfert en mode, on va dire que la personne est vieille.
Oui, c'est ça.
Ouais, t'es ami avec une personne de 70 ans, enfin, t'es vieux dans ta tête.
Et du coup, t'as des amitiés vieilles, donc vous faites des trucs de vieux et vous êtes vieux tous les deux alors que. Bah, en soi, au contraire, enfin...
C'est fun de faire des trucs de vieux, genre...
Bah oui,
bingo,
Et puis il y a des vieux qui font pas des trucs de vieux.
Oui,
hein.
De fou. Ouais.
Moi, je voyais encore l'autre jour un reportage sur une petite mamie qui va en boîte toutes les semaines.
Ouais.
Ça me fait penser
à la...
Et
elle a le droit, enfin, genre, c'est...
Grave.
Enfin, quand on y réfléchit, c'est un peu absurde de se dire que c'est pas pour elle, enfin...
Bah ouais, non.
Pourquoi ? Enfin, il y a pas de...
Et ça me fait penser à la Green Lady sur... je pense que vous voyez sur Instagram...
Ouais.
Genre, c'est une mamie, genre, je crois qu'elle est à Brooklyn, et genre, elle s'habille tout en vert, et genre, fait des trucs trop fun et tout, enfin... Juste, elle est grave, mais c'est vraiment des trucs qu'on qualifierait de jeune. Et juste, juste.
Oui, parce qu'en plus, non seulement, enfin, on s'attend à ce que tu le fasses pas, mais en plus, on te juge si tu adoptes des comportements de jeune.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire. On l'a trop stylé, mais parce qu'on arrive un petit peu à aller au-delà. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, en fait, c'est juste bizarre.
On a l'impression qu'ils sont fous.
Oui, voilà.
Qu'ils
ont pas envie de vieillir. Alors qu'en fait, ils vieillissent quand même.
En mode syndrome de Peter Pan, etc. Génération, j'ai l'impression que ça revient pas mal à la mode, le fait de s'habiller selon la mode de quand on était ado, un peu. Il y a plein d'objets qui deviennent à la mode, genre les labou-bou, tous les trucs comme ça, qui nous rapprochent de l'enfance, etc. Et je sais que, je pense que dans les générations plus âgées, on nous juge pas mal, un peu, en mode, on veut pas vieillir, etc. Alors qu'en vrai, j'ai l'impression que dans la génération, il y a aussi une grande maturité émotionnelle, intellectuelle. Enfin, genre, je fais une dégénéralité, tout le monde n'est pas pareil, mais on va tous en thérapie. Enfin, la moitié des gens vont en thérapie, la moitié des gens se posent des vraies questions existentielles. Enfin, donc, je sais pas, c'est paradoxal. Oui, le style, c'est un peu un truc dont on veut reconnecter, peut-être avec un truc enfantin, etc. Mais en soi, est-ce qu'on n'est pas... Ça veut dire qu'on n'est pas mature.
Mais sur ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que... Enfin, pour moi, ce truc de un peu régression et revenir vers des choses, genre la trend en mode 2016, genre vraiment revenir en arrière, pour moi, c'est vraiment le symptôme d'une angoisse genre existentielle à l'égard du futur. Enfin, ouais. On parlait hier de l'éco-anxiété, en ce moment, toutes les guerres genre, qui arrivent. Enfin, juste, je me dis, dans un an, enfin, genre, tu sais pas comment le monde sera. Et juste, c'est terrifiant, en fait, de vraiment se voir obligé de se projeter vers l'avenir et de s'imaginer comment le monde sera quand on sera vieux. Et du coup, il y a un certain confort à se réfugier dans l'enfance, dans les choses qu'on a déjà connues et qui sont vraiment certaines parce qu'elles sont, ouais. elles existent.
Et puis surtout, on s'est défini là-dedans. Et du coup, quand on grandit dans une génération, dans une certaine, dans une certaine culture, certaines habitudes, certaines sociétés, etc. Et du coup, on se définit un peu par ça. Enfin, je sais que, du coup, il y a Annie Ernaux qui parle un peu de ça. Mais du coup, il y a le jeu, et plus on vieillit, plus on devient un peu le on de nous, notre génération avant. Enfin, du coup, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire que nous, notre génération, on a des codes comme ça qu'on va se rappeler, et là, tout de suite, on va se sentir un collectif parce qu'on a vieilli avec ça.
Ouais.
Alors que quand on était dans cette génération, on était juste plein d'individualité et on était juste jeu. Enfin.
Ouais. Oui, à la première personne, quoi. Il y a des collectifs qui émergent et qui sont le support
ouais,
de ce
c'est
jeu.
Ça. Et en fait, quand on vieillit, c'est le collectif qui prend place. Enfin, qui prend la place.
Et d'autant plus, tu vois, c'est pour ça que ça me fait me dire, quand j'ai dit oui, en vrai, quand on est vieux et que les personnes qui nous entourent disparaissent, est-ce qu'on peut pas se reconfigurer? Je pense que oui, on peut se reconfigurer et genre, voilà, créer des connexions avec d'autres gens, etc. Mais en même temps, matériellement, c'est compliqué. Aussi parce que la société est segmentée en générations. Je pense que matériellement, c'est difficile pour les personnes de se réactualiser, etc. Parce qu'elles sont isolées. On segmentarise en génération, mais en plus, on isole les personnes âgées. Ce truc-là, en fait, l'expérience de la vieillesse, elle est compliquée aussi. Parce que littéralement, c'est souvent l'expérience de l'isolement. Mmh. Et c'est pas à cause de la vieillesse en soi. C'est comme l'explique Simone de Beauvoir, à cause de la manière dont on traite les vieux, littéralement. Mmh. La manière
c'est
dont
encore une fois les autres et pas la personne qui s'isole, c'est les autres qui l'isolent.
C'est ça, et c'est la société telle qu'elle est construite qui fait que ils sont exclus de plein d'espaces, et justement, s'ils vont dans des espaces qui leur sont pas réservés, on trouve ça bizarre et on trouve ça dérangeant. Et puis même, les gens se plaignent quand les personnes âgées vont faire leurs courses le samedi après-midi parce qu'ils sont pas actifs et que du coup, ils pourraient faire leurs courses la semaine.
Ou tondre.
alors qu'en fait, c'est des personnes qui sont isolées et qui ont envie de voir d'autres gens. Donc,
ouais,
et c'est pour ça en fait qu'on voit que qu'on a l'impression que la vieillesse est super tragique. C'est vrai que c'est un truc auquel je pense beaucoup. Comment je me vois plus vieille du coup? Et souvent j'ai un blanc. Je suis genre tu sais pas. Enfin genre
physiquement avec les cheveux blancs.
Ouais, genre enfin physiquement je peux me voir, tu vois, mais genre mon quotidien, j'arrive pas à savoir en fait. Et c'est ce que je me disais hier. Je me disais mais en fait c'est parce que j'essaie de me voir que moi. Alors qu'en fait moi j'espère que quand je serai vieille je serai entourée. Et c'est ça en fait, je pense, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui font encore des enfants, et c'est pour ça que la famille est là. C'est vraiment ce truc de genre être sûr que tu auras des gens qui seront autour de toi quand tu seras vieux.
Ouais.
Et en même temps, je trouve ça terrible de faire des gosses juste pour ça. C'est surtout, mais qui va t'entourer quand tu seras vieille?
C'est important aussi.
Et c'est super important, et je comprends que ça fasse peur de se dire qu'on va être seul. Enfin, moi, j'ai pas envie de vieillir seule.
Oui,
bien sûr que
non. Valoriser d'autres liens.
Mais il y a d'autres liens qui sont possibles en fait.
Oui, c'est une autre expérience de la solitude aussi. Voilà. Enfin, je pense que c'est un autre moment de vie où tu te retrouves avec toi-même à un moment où t'as un peu tout fini. Enfin, je pense que ça doit être aussi intéressant de se retrouver seul quand t'es vieux et de te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis. Enfin, ça doit être, c'est un moment où. Enfin, moi, j'aimerais trop avoir la mentalité que j'aurais à ce moment-là pour comprendre plein de choses en fait.
Ça, c'est Kant qui dit que dans un conflit des facultés, qu'il ne faut pas faire l'éloge de la vieillesse parce qu'elle serait synonyme de sagesse, mais plutôt parce que c'est. Genre arriver à un âge âgé, c'est ça fait ressortir le mérite de quelqu'un qui a vécu longtemps. Bon, Kant, il a très cette lecture genre t'as agi selon le devoir, les normes morales et tout, mais je trouve que je trouve ça encore limitant de trop associer la vieillesse à la sagesse, parce que c'est trop cool d'être âgé et te dire je sais pas tout, je suis pas dans une position dogmatique, j'ai encore plein de choses à apprendre, et je suis pas genre la figure de la vieille sage qui est pas forcément austère, mais tu sais qui connaît tout, et t'es toujours dans une posture qui peut être encore enfantine de t'es émerveillée par le monde,
qui laisse des portes ouvertes à la vie encore.
Et je pense que oui, c'est ça, en fait, ça laisse des portes ouvertes à la vie et au renouvellement, du coup. Enfin, c'est ça, la vie, en fait. La vie, c'est le renouvellement, c'est le changement. En fait, si tu laisses plus la place au changement, et à la possibilité du changement, je pense que c'est ça qui crée la désuétude. Et je pense que le secret, peut-être, pour bien vieillir, ça serait de réussir à garder ça en soi, ou à essayer de se reconnecter à ça régulièrement. Et en effet, quand on voit ces personnes âgées qui vont à la fac, par exemple, je trouve que c'est grave une bonne manière de continuer
Laisser des portes ouvertes.
Ouais, quoi. C'est ça. Ouais. Et ça peut être, enfin, souvent, c'est par, à mon avis, la culture, c'est-à-dire s'ouvrir à des nouveaux types de musique, lire des livres, regarder des films, regarder des séries.
Ouais, se laisser surprendre et continuer à chercher un émerveillement de la vie partout.
Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Marianne Varem, Manon Vincent, Anna Le Gouarmesgouez. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, opium-philosophie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à opium-radiopium@gmail.com et on se revoit au prochain podcast.
À plus.